Radio HDR. Le mix des cultures. Le mix.
Le mix. Le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM.
99.1 FM.
99.1 FM.
Radio HDR.
HDR. Bébé Gilberto.
RFI Musique.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, 2h30 ensemble pour parler aujourd'hui des conséquences du tremblement de terre de mercredi dernier au Venezuela. Plus le temps passe et plus l'espoir de retrouver des survivants diminue, d'autant que l'aide n'arrive pas aussi vite que l'auraient aimé les habitants. Vous entendrez des témoignages dans un instant dans le journal. Il a fallu que le soutien vienne de l'étranger. On se penchera sur celui des États-Unis dans la fabrique du monde dans une dizaine de minutes. Aide officielle de la part d'État ou aide de la diaspora.
C'est très dur d'être loin de son pays pendant ce genre de tragédie. Ça fait mal. Mais entre nous, ici, on est une grande famille et notre pays a besoin de nous.
Reportage auprès de Vénézuéliens installés au Pérou à écouter juste après 13h temps universel. On retrouvera également à cette heure-là notre correspondante à Caracas. Et avant cela, nous appellerons l'un des responsables de l'ONG Première Urgence Internationale qui est présente sur les lieux de la catastrophe. Entretien dans un peu plus d'une heure.
RFI Midi.
Au sommaire également l'examen d'une loi controversée qui débute au Sénégal sur un projet de réforme de la Constitution. Nous serons en ligne de Dakar dans Afrique Midi à midi et demi temps universel. Et puis le foot, toujours, bien sûr, et un match très attendu tout à l'heure en Coupe du Monde, sans doute l'une des plus belles affiches des 16e de finale. Maroc-Pays-Bas est l'occasion déjà de chambrer pas mal parmi les nombreux Marocains installés aux Pays-Bas, le cœur parfois entre deux pays.
Il y a un peu de pression et même de la tension, pas vraiment entre les peuples marocains et néerlandais, mais voilà, si les Pays-Bas gagnent ce match, les Marocains ont peur de se faire charrier.
Maroc-Pays-Bas, on attend aussi le au Japon, détail dans trois quarts d'heure. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi.
Et on commence avec le journal. Bonjour Sophie Pouzrat.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
1450 morts, 50 000 personnes toujours portées disparues, 5 jours après le double séisme très puissant survenu au Venezuela.
Les autorités évoquent 189 bâtiments entièrement effondrés et les équipes de secours de plusieurs pays sont sur place pour venir en aide aux habitants et pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres, même si l'espoir se réduit à mesure que le temps passe. Les habitants, eux, demandent des comptes aux autorités, ils se sentent abandonnés et estiment que le gouvernement n'a pas réagi comme il aurait dû. Reportage de notre correspondante sur place, Alice Campagnol.
Après la stupeur, la colère. À La Guaira, où le séisme a fait le plus de dégâts, les habitants se sentent livrés à eux-mêmes. Dans certains quartiers excentrés, l'aide officielle n'est jamais arrivée. Isabelle est assise devant son immeuble détruit.
Pas de policiers, pas de militaires, pas d'ambulance, il n'y a rien, rien de rien. Nous sommes tout seuls à survivre comme nous pouvons. Pas non plus de représentants du gouvernement. Rien.
La frustration, accumulée à la fatigue et au désespoir, crée des tensions et les altercations se multiplient. Bianca raconte comment elle a dû forcer les secours à intervenir dans les débris de son immeuble.
On s'est planté devant les engins de chantier pour qu'ils nous aident. Alors on a pris les clés aux conducteurs, on leur a dit qu'évidemment ce n'était pas leur faute, mais que ce que l'on réclamait c'est qu'ils nous aident à faire tomber des murs, car à la main c'était impossible. Notre haine à nous les gens qui avons perdu quelqu'un, c'est de nous dire que peut-être ils auraient pu être sauvés, ou peut-être pas, on ne le saura jamais.
Si hier, 4 jours après le désastre, et malgré la chaleur et la déshydratation, des survivants étaient encore découverts, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux, et ce sont désormais en majorité des cadavres qui sont extraits des décombres. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et face à la catastrophe, la Chine annonce qu'elle va envoyer pour 13 millions d'euros d'aide au pays.
La Chine qui dénonce un jeu géopolitique entre l'Australie et le Vanuatu.
Les deux pays d'Océanie ont signé un vaste pacte économique et sécuritaire et cet accord empêche entre autres l'implantation de toute base militaire étrangère au Vanuatu. Cela ne plaît pas à Pékin car l'archipel du Pacifique est au cœur d'une rivalité entre la Chine et les alliés des États-Unis.
Après un week-end de tensions et d'échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran, la question d'un retour aux négociations reste en suspens.
Malgré un retour au calme, Téhéran dément toute rencontre avec les États-Unis dans les prochains jours, à rebours donc des affirmations de médias américains qui évoquaient une rencontre ce mardi. Des tensions inévitables dans ce contexte des négociations, notamment sur le sujet du très stratégique détroit d'Ormuz, estime Sébastien Boussois, chercheur associé au CNAM et à l'Observatoire géostratégique de Genève.
Je pense que pendant les deux mois qui vont venir, on sera dans un contexte où il y aura des anicroches de cet ordre-là, parce que l'un et l'autre s'inscrivent dans un rapport de force où ils veulent avoir le contrôle. Mmh. On est dans la négociation en Suisse 3 jours par semaine, jusqu'à fin août, et donc ce genre d'événement arrivera à nouveau, parce qu'on est dans une situation très explosive sur le canal même, parce qu'il faut à la fois libérer les 11 000 marins qui sont là, les je sais plus combien de bateaux qui sont coincés, puis ensuite essayer de créer une forme de fluidité du trafic. Et dans le même temps, cette fluidité est un des éléments majeurs de la négociation qui est en cours. Donc tout ça est totalement chaotique, tout ça est totalement artistique, et donc ce genre de dérapage, à mon avis, fait partie des risques du métier. Les uns et les autres vont aller défendre qu'ils sont dans leur bon droit, alors que ni l'un ni l'autre ne sont dans aucun droit de quoi que ce soit, puisqu'encore une fois, ce sont des eaux internationales et que c'est la libre circulation qui devrait prendre le dessus.
Des propos recueillis par Abla Junaidi. Dans ce contexte, ce lundi, l'Iran annonce avoir tenu une réunion avec Oman sur le contrôle du détroit d'Ormuz.
C'est une annonce qui ne passe pas inaperçue en Turquie.
Celle du gouvernement israélien qui a approuvé ce dimanche à l'unanimité la reconnaissance du génocide des Arméniens sous l'Empire ottoman. Cette décision, qui doit encore être approuvée par le Parlement, intervient dans une période de vives tensions entre Israël et la Turquie. Ankara a dénoncé de façon très ferme cette décision et accuse l'État hébreu de poursuivre des motivation politique. Autre réaction, celle de l'Azerbaïdjan. Bakou se dit préoccupé par cette annonce et estime qu'elle constitue, je cite, une déformation de l'histoire.
Au moins 5 morts dans une frappe de missile russe en Ukraine.
Une frappe sur la ville de Dnipro dans l'est du pays. Les autorités indiquent aussi qu'une vingtaine de personnes ont été blessées. Depuis 4 ans et le début de la guerre en Ukraine, Moscou frappe quasi quotidiennement le territoire et Kiev, de son côté, a intensifié ses tirs de missiles et de drones contre les territoires occupés par la Russie. Et les médiations pour mettre un terme au conflit, elles sont au point mort.
Des frappes en Afghanistan aussi la nuit dernière.
Le Pakistan a mené des frappes aériennes dans l'est du pays. Elles ont tué 29 combattants afghans, selon les forces de sécurité pakistanaises, mais aussi au moins 36 civils. Islamabad assure que ces frappes visaient une faction dissidente des talibans pakistanais. Depuis fin février, le Pakistan mène régulièrement des frappes contre l'Afghanistan, Sarah Krakovic.
Oui, car Islamabad accuse Kaboul d'abriter des talibans pakistanais, ces combattants qui revendiquent des attaques meurtrières au Pakistan. Une justification suffisante pour ces frappes, selon Islamabad. Nous voulons la paix, mais aussi lutter contre le terrorisme, nous assure une source diplomatique pakistanaise. Le gouvernement taliban à Kaboul, lui, rejette ces accusations, assure qu'Islamabad vise des civils. L'ONU dénombre au moins 372 civils afghans tués par ces violences entre janvier et mars 2026, soit les combats les plus meurtriers entre les deux pays depuis 2021, date du retour au pouvoir des talibans. Les relations entre les deux pays sont très tendues depuis. Après une courte trêve en mars pour la fin du ramadan, les attaques ont repris. La frontière entre les deux pays est en grande partie fermée depuis octobre. Elle est source de tensions car empruntée par de nombreux réfugiés afghans. Ils sont plus de 2 millions au Pakistan. Les discussions et les efforts de médiation n'ont abouti à aucune solution durable. Et pendant que le Pakistan poursuit ses frappes sur son voisin, il poursuit aussi son rôle de médiateur de paix au Proche-Orient.
Sarah Krakovic du service international de RFI, merci à vous.
1300 morts imputables à la canicule en Europe.
C'est un bilan provisoire de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que le continent a enregistré de nouveaux records de chaleur ce dimanche, plus de 41,5 enregistrés en Allemagne, 40,5 en Pologne et au moins 130 millions d'Européens qui devraient connaître des températures à plus de 35 degrés ce lundi. En France, la vague de canicule de chaleur recule, l'alerte orange canicule est levée pour 10 nouveaux départements, dont l'Île-de-France, mais elle laisse derrière elle des dégâts sanitaires. Les urgences hospitalières s'attendent à recevoir encore beaucoup de patients cette semaine à cause notamment de l'effet retardement de la chaleur sur les organismes. Et autre conséquence, 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce lundi, notamment dans le nord du pays, après les violences orages qui ont éclaté à la fin de cette vague de canicule inédite.
Et puis un mot de la Coupe du Monde de foot maintenant, c'est terminé pour l'Afrique du Sud.
Les Bafana Bafana se sont inclinés face au Canada 1-0 en 16e de finale de ce mondial. Ce lundi au programme, le Brésil qui dispute un match face au Japon à Houston, l'une des plus belles affiches du jour. Les Brésiliens qui ont négocié leur premier tour sans embûche, ils partent favoris contre les Japonais. Frédéric Suteau.
Le Brésil a mis à profit ses trois matchs du premier tour pour monter en puissance. Là où le nul concédé au Maroc d'entrée était inquiétant, les deux rencontres suivantes face à Haïti et l'Écosse ont permis à l'équipe de faire le plein de confiance. Deux fois 3-0, Vinicius et Paqueta de plus en plus complices, Neymar qui est entré quelques minutes, tous les clignotants sont au vert à l'heure d'affronter le Japon, le sélectionneur Carlo Ancelotti.
On progresse, c'est vrai. Mais là, on entre dans la phase à élimination directe. Il va falloir être très fort, mentalement, physiquement. La question n'est pas de savoir si on peut gagner la Coupe du Monde. Il faut juste continuer d'avancer dans le tableau.
L'équipe japonaise en face aura des arguments. Elle non plus n'a pas perdu un match au premier tour. Dans un style toujours spectaculaire, plein d'énergie, le capitaine et défenseur de la sélection brésilienne, Marquinhos, se méfie.
C'est une équipe très forte collectivement. La plupart de leurs joueurs évoluent dans les grands clubs. Ils sont très disciplinés, on les respecte beaucoup, mais nous, on veut continuer notre route.
Brésil-Japon, les deux équipes se sont déjà affrontées à une reprise en Coupe du Monde en 2006. Le Brésil l'avait emporté 4-1. Frédéric Suteau, Philadelphie, RFI.
Frédéric Suteau et Brésil, Japon, ça sera à Houston ce lundi, un match à vivre en direct sur le site de RFI à partir de 17h temps universel, mais aussi deux autres 16e de finale au programme de cette journée. L'Allemagne fera face au Paraguay, le Maroc rencontre les Pays-Bas, match prévu à 1h en temps universel dans la nuit de lundi à mardi. Autant dire Anne que si vous voulez le regarder, il faudra vous coucher très tard ou vous lever très tôt au choix.
Et vraiment j'en rêve, merci Sophie Pouzrat. La Fabrique du Monde tout de suite. Guillaume Nodin, vous nous parlez aujourd'hui du Venezuela. On le disait dans le journal, 5 jours après le très violent tremblement de terre près de Caracas, on déplore plus de 1450 morts, 50 000 disparus, des quartiers entiers sont détruits. L'aide commence à arriver de pays étrangers et il y en a un, Guillaume en particulier, qui est scruté de près. C'est l'aide qui provient des États-Unis.
Oui, parce que depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro en janvier, les États-Unis ont de fait pris la direction du pays par la force et la menace de recommencer est toujours là si jamais les dirigeants actuels ne sont pas assez dociles.
Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
just begun to get a share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Yeah, sing it to me.
I got all my sisters with me.
Sing it to me.
We are family.
Oh, I can hear you guys.
Yeah, everybody sing.
Ooh.
We
have faith in you
family.
And the things you do. Hey, hey.
I got all my sisters with me.
Oh.
sauver la planète.
Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements, donc l'ouest de l'Occitanie. Et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliqué dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation avant des projets pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique ?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant qu'APNE, Association de protection naturelle de l'environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet.
Donc c'est c'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès aux dossiers sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels, aujourd'hui, il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il ne nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc, c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter des avenants, on risque pour certains dossiers d'arriver à une confrontation qui soit beaucoup plus musclée de la part des populations locales. Je donne un exemple, l'EDREAL le confirme.
L'EDREAL, les directions régionales à l'environnement, je ne sais plus.
De l'environnement et du logement, que lorsqu'on fait une simple consultation publique, et beaucoup de cas maintenant passent en consultation publique, c'est-à-dire dématérialisée sur Internet, et non des enquêtes publiques qui supposent des enquêtes avec un commissaire enquêteur, eh bien les recours ensuite sont plus nombreux. Donc c'est un très mauvais calcul et c'est tout simplement un déni de démocratie environnementale qui pourtant aujourd'hui est tellement mise à mal.
Alors ce décret, j'ai lu aussi qu'il instaurait un délai de rigueur. Qu'est-ce que c'est ce délai de rigueur ?
Alors on va avoir aussi beaucoup moins de temps pour recourir au tribunal, c'est-à-dire qu'avant on avait une période très très étendue, donc c'est ça vraiment qui est très visé, c'est-à-dire qu'avant le recours gracieux, faute de réponse au bout d'un mois ou deux, on pouvait faire un recours dans les deux mois qui suivaient. Or là en fait tout est raccourci. Dès la publication sur le site internet de la préfecture, nous n'avons plus qu'un mois, je crois, pour déposer les éléments, un recours éventuel à la cour administrative, ce qui induit en fait de devoir, dès l'enquête publique, travailler avec cet esprit-là, puisque nous n'aurons jamais eu en amont une proposition d'arrêté préfectoral d'exploitation sur lequel nous pourrions proposer des améliorations, par exemple, ou faire des mises en garde. Donc on coupe complètement aujourd'hui les moyens de concertation, sachant que les enquêtes publiques sont en général des tartufferies, puisque les commissaires enquêteurs ne répondent pas aux questions, puisque même quand vous avez une opposition à 95% sur un projet, ça ne change strictement rien, et que les commissaires enquêteurs, globalement, ne donnent pas d'avis défavorable.
J'ai vu que ça ne s'appliquait pourtant qu'à 5 catégories de projets, les énergies décarbonées, donc l'éolien, le solaire, certainement l'hydroélectricité aussi, méthanisation, les transports, la souveraineté alimentaire, économique et enfin industrielle. Tous, on pourrait dire, alors peut-être les transports, ça dépend lesquels, ont quand même cet objectif de faire rentrer le pays dans une forme de transition et d'adaptation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors aujourd'hui, nous sommes encore à l'échelle nationale dans le tout aménagement routier, hein, qui est quand même pas du tout le bon exemple en termes de transition écologique, de décarbonation. Donc on a encore une forme de folie à construire des deux fois deux voies partout. Il y a des projets de contournement autour de Toulouse pour gagner une minute, des projets de contournement dans l'Aveyron, la N21 dans le 65, je ne vous parle même pas de la 69. C'est à chaque fois des projets surdimensionnés, qui ont une emprise au sol monstrueuse, qui coupent toutes les corridors écologiques, qui utilisent énormément de matière et de bitume. Donc en fait, ces projets-là sont souvent soi-disant d'intérêt général et ou d'intérêt public. Et cette dénomination suffit à rentrer dans le cadre du décret. Et ce sera très difficile de les contester, même si vous avez la disparition de 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares de zones humides. Donc en fait, les aménagements routiers sont très, très, très destructeurs de biodiversité. On pourrait penser que ce sont des aménagements du 20e, mais là, le lobby des BTP, on va dire, est encore extrêmement puissant. Et on voit bien avec la 69 dont le trafic ne justifiait pas une autoroute et pourtant cette autoroute est passée en dépit des alternatives proposées.
Donc là on parle des transports et sur les autres, quel regard porte FNE sur les projets de transition énergétique?